Bonjour à tous, merci. Je ne suis pas Maxime Maignan, je suis Sylvie Lara, je suis biologiste au laboratoire de virologie à Grenoble. Et donc Maxime Maignan, qui est urgentiste au CHU de Grenoble, est ici. On a choisi de faire cette présentation à deux, parce que justement, pour nous, la biologie délocalisée, c'est un dialogue entre le biologiste et le clinicien qui doit rester important. Et donc c'était intéressant pour nous de présenter les résultats de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Voilà, donc nos conflits d'intérêts. Alors, on va vous parler aujourd'hui du diagnostic de la grippe et du VRS. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment c'est fait jusqu'à maintenant au CHU de Grenoble. Donc, on a un processus classique, en fait, où tout est fait au laboratoire centralisé de biologie, donc avec des temps que vous connaissez tous, d'attente aux différentes étapes entre le prélèvement, le moment où l'échantillon est mis au pneumatique, le moment où il est réceptionné au pneumatique, l'enregistrement. Nous, on a une réception centralisée au rez-de-chaussée et les analyses d'infectiologie sont faites au troisième étage, donc là, on prend encore un petit délai. Puis après, la réalisation en elle-même des analyses. Donc pour les analyses concernées, la grippe et le VRS, on a deux techniques actuellement au laboratoire de virologie. Une technique en plaque PCR classique, donc avec une phase d'extraction puis une phase de PCR, donc qui est assez longue et qu'on lance une fois par jour en regroupant les prélèvements en période épidémique. Et une technique plus rapide, mais qu'on n'utilise que dans certains cas. Donc l'algorithme qu'on s'était fixé, c'est justement avant d'entrer en phase épidémique, quand on a que des demandes ponctuelles, en fait, on ne met pas en place la technique en plaque, on reste sur la technique unitaire quand on a un petit nombre de demandes. À partir du moment où le nombre de demandes augmente, on met en place au quotidien la technique en plaque. Et donc on fait une plaque par jour qui est lancée vers midi, donc on essaie de réceptionner tous les échantillons de la nuit et du matin. Et avec les différents délais que je vous ai présentés, en fait, ça nous amène à rendre un résultat en fin d'après-midi. On a défini avec le service d'hygiène et les différents services cliniques des services pour lesquels, quand les prélèvements arrivent après qu'on ait lancé la plaque de grippe, ces prélèvements puissent être pris avec la technique d'urgence pour rendre un résultat quand même dans l'après-midi et non pas le lendemain soir si on attendait la plaque suivante. Donc il s'agit notamment des services d'urgence, de réanimation, etc. Et puis, évidemment, on fait aussi, avec cette technique d'urgence, les urgences qui nous sont signalées avec un téléphone dédié. On a mis en place depuis maintenant 3-4 ans aussi en pédiatrie l'utilisation de TROD. Donc il s'agit de tests antigéniques, en fait, de détection avec une détection par immunofluorescence. Qui ont été installés en pédiatrie puisque donc, leur sensibilité est moins mauvaise chez les enfants en période épidémique que ce qu'on peut constater chez les adultes. Aussi puisque chez nous, la pédiatrie est gérée dans un hôpital couple-enfant qui n'est pas au même endroit que le reste de l'hôpital et le laboratoire et on avait des délais de rendu qui étaient encore plus importants. Donc par contre, on avait déjà cette expérience du coup de biologie délocalisée avec les pédiatres, avec des critères qu'on avait essayé de bien cibler, c'est-à-dire que ce n'était pas fait chez tous les enfants, c'est fait chez les enfants avec certains critères de gravité, donc chez les tout-petits, chez les enfants qui ont des comorbidités, chez les enfants graves, ce n'était pas fait tout venant en fait. Donc là, je vous ai mis les volumes, en fait, à peu près que ça représente ces différentes techniques donc sur le laboratoire sur le CHU de Grenoble. Donc juste à souligner, en fait, pour justement notre expérience, entre guillemets, de biologie délocalisée à Grenoble, on a pu constater avec la pédiatrie donc, qui était en autonomie pour acheter ces tests et pour lesquels on n'a pas de système automatisé en fait, pour récupérer les résultats. Donc les tests sont faits par les internes et les résultats sont rentrés dans le système informatique avec le dossier patient. Et en fait, on a eu des problèmes de commande d'approvisionnement et pour 650 tests achetés, on n'en retrouve que 500 résultats dans les dossiers cliniques. Donc ça nous a permis, en fait, cette expérience de toucher du doigt quelques problèmes qu'on pouvait rencontrer en biologie délocalisée. Donc maintenant, Maxime va vous expliquer l'expérience qu'on a fait aux urgences adultes cet hiver.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce congrès, je ne connaissais pas du tout. Et je suis vraiment très content d'être là. Ce matin, j'ai appris beaucoup de choses pour un clinicien et je pense qu'il devrait y avoir plus de cliniciens. Et justement, je vais vous présenter un peu l'expérience clinique à Grenoble. Donc voici notre centre hospitalier, enfin ce qui sera dans 2 ans, parce que là vous voyez ça, pardon. Ça c'est encore en construction. Quoi qu'il en soit, on a un centre hospitalier de référence pour l'arc nord-alpin, avec environ 120 000 admissions par an aux urgences. Alors le problème des urgences, c'est ça. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les médias actuellement. Et malheureusement, pour une fois, les médias ne se trompent pas beaucoup. C'est des patients qui attendent dans les couloirs, c'est des patients qui dorment dans les couloirs, ou qui essayent en tout cas. Et puis c'est des soignants qui sont un petit peu débordés. Et le problème, c'est que quand vous avez ça en état de base, si vous rajoutez l'épidémie de grippe par-dessus, en fait, vous explosez, quoi. Donc ça, c'est la vraie problématique qu'on a. Alors c'est très surprenant, et on ne va pas résoudre le problème avec la PCR délocalisée, mais chaque année, on a le même problème, on n'est pas capable de l'anticiper, mais ça, c'est un autre débat. Une des problématiques spécifiques quand même à la grippe, hein, c'est que vous avez bien vu que là, pour isoler les patients dans un service d'urgence, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs aujourd'hui. L'isolement de principe d'un patient qui vient aux urgences pour un syndrome respiratoire, ça n'existe pas aujourd'hui en France. Alors, ça, c'est les problèmes. Quelles solutions on peut apporter ? La seule solution qui fonctionne pour réduire la durée moyenne de séjour aux urgences, là on est un peu en dehors de la grippe, c'est en fait faire ce qu'on appelle des filières de soins rapides. C'est un peu le concept de la caisse de moins de 10 articles que vous avez dans les supermarchés. C'est-à-dire que historiquement, les médecins urgentistes, on a été créés au fond de notre âme, on est là pour sauver des vies. Donc on mettait le paquet pour effectivement traiter au maximum les patients les plus graves. Puis les Américains se sont rendus compte il y a 15 ans en arrière que c'était sympa, c'était bien, effectivement, il faut sauver des vies. Mais en fait, si on met des moyens pour s'occuper des moins graves et s'en occuper rapidement plutôt que de les faire attendre, eh ben, ça vous, mathématiquement, ça crée un espace de liberté pour s'occuper des autres, en fait. Et donc, au lieu de délaisser les gens et les laisser attendre 7, 8, 9, 10 heures, au contraire, il faut les prendre très rapidement en charge, il faut les traiter et il faut les faire sortir très rapidement. Comme ça, vous aurez plus de temps pour les autres. Donc ça, c'est le concept de filière de soins rapides. Et c'est un concept qui est très pertinent si on s'intéresse, en fait, à la grippe. Et concrètement, nous, aux urgences, nos deux déterminants majeurs de la durée de soins, c'est d'une part l'imagerie, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Et d'autre part, c'est le temps de rendu des analyses biologiques. Et c'est encore plus vrai, imaginez en épidémie de grippe, les patients qui se présentent aux urgences, qu'ils soient valides ou non valides, si on doit attendre ce que vous a présenté Sylvie, c'est-à-dire parfois 5, 6 heures, voire même avant, il y a quelques temps, on attendait le lendemain pour savoir s'ils ont la grippe, c'est complètement incompatible avec notre activité aux urgences. Et bien sûr, on en a parlé ce matin, c'est l'étude du Lancet de l'année dernière, alors c'est sur du multiplex, et la conclusion m'avait beaucoup plu, c'est que cependant le critère principal de jugement, qui était en fait la prescription d'antibiotiques, la question c'était est-ce qu'on peut réduire la prescription d'antibiotiques grâce au multiplex dans le respiratoire, et donc le critère de jugement principal n'a pas réussi à démontrer de différence en termes de prescription des antibiotiques, parce que les antibiotiques étaient débutés la plupart du temps avant le résultat de l'analyse point of care. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, si vous faites du point of care, mais vous avez le résultat dans les 5 heures, pour nous, en médecine d'urgence, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on a fait, c'était... et là, je dois vraiment remercier à la fois une de nos cadres de santé et surtout nos infirmiers. On s'est dit, OK, si on veut gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à l'accueil des urgences. C'est-à-dire que le patient, il arrive... Il a de la fièvre, il a des symptômes respiratoires, on est en une période d'épidémie de grippe. On fait son entrée administrative, on lui prend la saturation, la pression artérielle, etc. Et en même temps, l'infirmier d'accueil lui fait un prélèvement nasopharyngé et lance l'analyse de PCR grippe avec ce système-là qu'on a pu tester. Je ne vais pas y arriver. Voilà. En fait, est suffisamment petit pour être utilisé à l'accueil d'un service d'urgence. Et donc, c'est vraiment ça. Le patient arrive, il est vu par l'infirmier et immédiatement on fait la PCR grippe s'il présente des symptômes respiratoires et de la fièvre. Alors, on a fait une expérimentation. Au départ, on était parti pour le faire sur un mois. On avait 200 tests. Et puis finalement, en 11 jours, on a fait 180 tests de PCR grippe et VRS, parce que ce système-là permet de faire les deux PCR. Ce qui veut bien dire qu'il y avait en fait un vrai besoin. On n'avait pas anticipé de le faire aussi rapidement. Et puis ce qui est très très surprenant, et à mon avis c'est le résultat principal qu'on peut exposer aujourd'hui, c'est que 40% des tests étaient faits en période de garde, c'est-à-dire la nuit ou le week-end. Parce que vous savez tous, hein, c'est bien beau de faire un petit peu de recherche, on met un médecin, un infirmier supplémentaire à côté du patient, faire du test à l'accueil des urgences, c'est très simple hein, si on met beaucoup plus de monde. Mais quand vous êtes en période de garde, si vous arrivez à faire 40% des tests en période de garde, il n'y a pas d'infirmier de recherche ou qui que ce soit, il y a juste l'infirmier, on est vraiment en période de saturation, il n'y a pas de personnel supplémentaire, et bien malgré ça, on a 40% des tests qui ont été faits en période de garde. Ça veut dire que vraiment, les infirmiers se sont appropriés cette technique et l'ont utilisée de façon assez facile. Alors sur les 200 tests, on a 187 résultats, parce qu'au départ, il y a une petite courbe d'apprentissage, on a fait quelques bêtises, et surtout, on a eu un problème sur 8 tests, un problème informatique qui fait que ça n'a pas rendu les résultats. Je vous présente très rapidement les résultats. On avait 50% d'hommes. L'âge médian, c'est 70 ans. Ils étaient très peu, enfin un petit peu comorbides. Il y avait quand même 13% qui vivaient en institution. Ils n'avaient pas de défaillance d'organes. Globalement, c'est des patients qui sont dans les services d'urgence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de critères de gravité, mais ils ont quand même généralement suffisamment d'antécédents pour venir dans un service d'urgence se faire traiter ou diagnostiquer pour une grippe. Ça, c'est nos résultats. Donc, on avait 50% de PCR qui était négative. On avait 14% de grippe A, 23% de grippe B et 13% de VRS.
Il faut peut-être juste dire. Vas-y. Ça a été fait sur l'épidémie de cette année, sur les deux premières semaines de 2018. Donc, on était en plein pic épidémie.
Ce qui est assez intéressant, c'est que pour la prise en charge et le devenir des patients, finalement, on n'a pas eu beaucoup d'impact en termes de traitement. Peu de patients ont reçu un antiviral. Beaucoup de patients, à mon goût, ont reçu une antibiothérapie, même si on est sur des chiffres qui sont bien inférieurs par rapport à la publication du Lancet, où ils étaient plus aux alentours de 70-80% des patients qui recevaient une antibiothérapie, avec des descriptions de population qui sont assez similaires. On a quand même 46% de patients hospitalisés, 1% de décès. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ça, et puis vous verrez après l'impact de la technique.
Donc du coup, moi j'ai présenté sur 555 résultats, en fait c'est la démultiplication des résultats pour chaque patient, on a grippe A, grippe B, VRS. Donc il y en a un certain nombre qu'on a pu vérifier avec les techniques de laboratoire classiques. Donc on a eu deux discordances avec deux grippe A qui étaient positives avec le test utilisé et qui étaient négatives avec nos techniques de labo, mais une sur deux, donc les échantillons ont été envoyés au Centre National de Référence à Lyon, et une sur deux était effectivement positive, donc elle avait été loupée par nos techniques de labo et détectée correctement, et une par contre était effectivement un faux positif. Et la deuxième, donc, c'était une grippe B qui était rendue positive avec nos techniques de laboratoire et confirmée par le CNR et qui a été rendue négative avec le test utilisé. Donc globalement, un faux plus, un faux moins sur plus de 500 résultats qui sont sortis là, de cette étude.
Alors, d'un point de vue clinique, quelles ont été les conséquences ? Je vous rappelle, c'est un test sur 11 jours. On pensait faire un mois. Et en fait, en 11 jours, on a permis de montrer une réduction de la durée moyenne de séjour des patients de 1 heure. Alors, 1 heure, ça ne vous paraît pas beaucoup. Pour nous, c'est extraordinaire parce que vous le multipliez par le nombre de patients, en fait. Chez nous, en moyenne, on a, en période de pic épidémie, 200 patients par jour. Donc, vous voyez, ça fait 200 heures d'économie par jour, en fait, dans le calcul. Donc, en temps médical et en temps infirmier, c'est énorme. On a réduit la prescription de biologie. Alors, c'est la prescription de biologie type NFS, iono, coagulation et de prise de sang même, en fait. C'est-à-dire le temps infirmier. Il y a 9% des patients qui n'ont pas eu en fait, d'analyse biologique autre. On a augmenté la prescription des antiviraux quand les résultats étaient positifs, de 22%. En revanche, on n'a pas eu de changement de prescription des antibiotiques. Là encore, c'est difficile de l'interpréter parce qu'en 11 jours, on n'a pas du tout réussi à changer les habitudes des praticiens. Problématique, je vous donne juste un exemple très rapide. On a un jeune homme qui nous avait été adressé par un médecin de ville pour une suspicion de méningite, 24 ans, fièvre, courbature, syndrome un petit peu ORL, et adressé pour suspicion de méningite. On lui fait la PCR à l'accueil, la PCR est positive à la grippe. Le médecin qui l'a pris en charge derrière lui a quand même fait une ponction lombaire, qui est revenue forcément négative. Ça veut dire que les habitudes ont un peu la vie dure, et ça, c'est une des problématiques de ce genre de test, et qu'il faut vraiment les faire entrer dans la pratique quotidienne. Alors, quelques réflexions rapides sur la PCR grippe aux urgences. On a trouvé ça, pour nous, des cliniciens, on a trouvé ça extrêmement facile à utiliser par des infirmiers qui ont été formés, mais une formation très courte, de moins de 2 heures, y compris la nuit et le week-end. On avait un seul appareil en test, il nous en aurait fallu deux. La durée de rendu des résultats est de 22-23 minutes à partir du moment où vous avez lancé le test. En période d'épidémie et d'affluence, on est à 15-20 patients par heure. Alors, ils n'ont pas tous des syndromes respiratoires fébriles, mais il aurait fallu avoir un deuxième dispositif. La question du multiplex, je n'y reviendrai pas, elle a été abordée ce matin. Et puis après, ça nous permet de nous positionner en tant que cliniciens pour réfléchir encore une fois avec les biologistes à savoir qu'est-ce qu'il faut faire aux urgences, qu'est-ce qu'il faut faire en centralisé. Mais ça aussi, ça a été bien abordé ce matin.
On a fait à notre administration une proposition pour le diagnostic grippe, essentiellement pour l'année prochaine. Donc c'est la proposition qui se trouve ici. C'est quand même de continuer les plaques une fois par jour au laboratoire, parce qu'on est quand même sur des prix qui sont 4 fois inférieurs à ce qu'on peut faire en technique rapide. Et ça répond quand même à un certain nombre de demandes qui sont faites dans les services d'hospitalisation. De continuer à pouvoir avoir au laboratoire des tests rapides qui sont faits en horaire ouvré et si possible de pouvoir les faire le week-end et les jours fériés sur le laboratoire centralisé de garde, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Bon, comme l'a dit Maxime, on aimerait bien pouvoir aussi utiliser des panels respiratoires neuroméningés comme ceux qui ont été présentés par le professeur Isopé ce matin. Et puis donc délocaliser aux urgences adultes et pédiatriques. Donc aux urgences pédiatriques, ils ont actuellement un test antigénique. Donc je pense que ça serait bien de l'upgrader en un test de PCR. Et donc d'avoir au niveau des deux urgences de l'hôpital à disponibilité 24/24 pendant la période épidémique, ces tests de PCR rapides. Alors pour l'instant, on est sur deux approches médicales différentes. Celle des urgences adultes que vous a décrit Maxime Ménian, qui est vraiment à l'accueil des urgences. Les tests sont faits par les infirmiers. Et puis pour l'instant, la politique qui est adoptée avec la pédiatrie, les tests sont faits par les internes sur critères de gravité. Donc on a deux politiques différentes. Donc il faudra voir si on harmonise ou si on continue à fonctionner comme ça en fonction de la nécessité exprimée en fait par les cliniciens des différents services. Et puis maintenant, il faut qu'on arrive à trouver une bonne organisation entre le service clinique et le laboratoire pour arriver à bien fonctionner. Donc on a pu voir, nous, avec la pédiatrie, qu'on avait des gros problèmes de commandes de réactifs. Donc la question se pose de est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit plutôt le laboratoire qui passe les commandes de réactifs. Après, il faut évidemment que le laboratoire puisse avoir accès aux résultats pour pouvoir les valider médicalement, pour pouvoir, là sur la grippe, on est soumis à une obligation de déclaration des cas au CNR pour la surveillance des épidémies, donc pour pouvoir faire les déclarations hebdomadaires. Après, la gestion des contrôles aussi, c'est à mon sens plutôt au laboratoire de s'occuper de tout ce qui est entretien de la machine, passage des contrôles, accréditation, habilitation, etc. pour que en fait, les cliniciens puissent vraiment avoir l'utilité, ce qui leur est le plus utile, c'est-à-dire faire le test et pouvoir utiliser le résultat pour le suivi du patient sans avoir entre guillemets à s'occuper de toute l'organisation matérielle qui est autour et qui peut quand même être assez lourde.
Merci pour cette présentation très claire. Vous expliquez dans le tableau d'impact que vous avez réduit d'une heure la durée de séjour des patients dans le service des urgences. Alors la question, est-ce que c'est une comparaison en brut ou est-ce que vous avez fait deux cohortes, une cohorte avec le lecteur dans votre service et puis une autre cohorte où le système traditionnel qui prend une demi-journée de délai est-ce que vous avez comparé vraiment par rapport à ça ou c'est par rapport à une durée standard de séjour que cette diminution d'une heure a été calculée?
Alors, on a comparé par rapport aux périodes où on n'avait pas le dispositif, on l'a eu que sur 11 jours. Donc on l'a comparé sur les autres périodes de l'épidémie où on n'avait pas le dispositif. Alors c'est plein de biais, mais c'est cohérent avec la littérature. Et encore une fois, nous, ce qui nous intéressait, c'était la faisabilité à l'accueil par une infirmière. Et clairement, on a démontré que ça, c'était faisable et très largement faisable. Le reste, il faut faire une étude randomisée. Enfin, voilà.
Okay.
Thank you. The next question is up.
Indépendamment des TROD et de l'approvisionnement des TROD aux urgences, est-ce que vous avez comparé l'apport en termes de sensibilité et de spécificité d'un automate de PCR en biologie délocalisée versus les TROD qui vous rendent un résultat finalement aussi rapidement en termes de délai en tout cas que la PCR?
Alors nous non, ça c'est vrai que comme l'a dit Maxime, l'objectif de du test là qu'on a fait cet hiver, c'était vraiment la praticabilité du test, parce qu'en fait il existe déjà beaucoup dans la littérature de résultats sur l'efficacité de ces tests comparés effectivement aux tests antigéniques. Les publications montrent qu'il y a un net intérêt. Là nous on a les tests antigéniques chez les enfants et là le test on l'a fait chez les adultes, donc on n'était pas évidemment, c'était pas le but de l'étude et on est incapable de comparer. Mais dans la littérature il y a quand même beaucoup déjà maintenant d'articles qui montrent une supériorité en termes de sensibilité et de spécificité de la PCR par rapport aux tests antigéniques, encore plus chez les adultes que chez les enfants.
La proxima.
Alors, par rapport à ça, je pourrais apporter des éléments de réponse, parce que nous, ça fait depuis 3 ans maintenant qu'on fait du tout moléculaire, notamment aux urgences pédiatriques. Et notamment, quand il y a une épidémie de grippe B, on se rend compte quand même que les CT en fait, de PCR sur une grippe B sont souvent beaucoup plus élevés que ceux pour une grippe A. Et le seuil moyen de sensibilité d'un test antigénique pour un CT, c'est à peu près 30. Donc quand vous avez des CT en grippe B qui sont tous supérieurs à 30, nous l'épidémie il y a 2 ans, pas celle de cette année, mais l'épidémie de grippe B qui a eu lieu il y a 2 ans, on avait une sensibilité des tests antigéniques qui était de 20 à 30% à peine. Donc vous voyez tout de suite que la porte PCR, moi je crois que ça se discute à mon avis pas.
C'est pour ça que nous, on les avait arrêtés, ces tests antigéniques, chez les adultes, parce qu'on trouvait que leur sensibilité était vraiment beaucoup trop mauvaise, en fait.
Okay. Any other questions? The last.
Si votre administration trouve que ça coûte trop cher, tout ça, comme de toute façon, l'hôpital, c'est le maire, la mairesse qui est responsable du conseil de surveillance, vous pouvez lui dire gentiment que s'ils faisaient plus d'efforts pour faire de l'information pour que les gens se fassent vacciner, il y aurait moins de gens avec la grippe aux urgences et donc des économies. Parce que voilà, c'est ça la solution, c'est la prévention.
Vous n'êtes pas sans savoir que notre maire à Grenoble est un petit peu le premier maire écologiste de France sur une grande ville.
Oui, mais c'est pour
donc
ça que
la grippe n'est pas forcément sa priorité. Enfin, la vaccination n'est pas sa priorité.
J'ai dit ça un peu malicieusement. Mais vous pouvez lui envoyer, lui dire, voilà ce que ça coûte la grippe. Maintenant, réfléchissez à ça. Sans compter que, comme vous le disiez, quand vous êtes en train de vous occuper d'une grippe, vous n'êtes pas forcément en train de vous occuper d'un malade qui est en train de se dégrader et qui va devenir un malade vital.
Non, mais juste pour revenir là-dessus, ce qu'on ne peut pas montrer par cette étude, parce que de toute façon, c'est juste de la vie courante, etc., mais c'est, pour nous, c'est révolutionnaire pour des cliniciens aux urgences d'avoir ça. Ouais. Ça nous réapprend à réfléchir différemment. Et encore, on n'est qu'au début, parce que vous l'avez souligné ce matin. Bientôt, il y aura des traitements spécifiques VRS et puis d'autres virus, etc. Mais là, nous, ça nous réapprend à juste réfléchir correctement. Et il y a un gap qu'il faut qu'on fasse, c'est changer les habitudes. C'est ça qui va être le plus long. Et on sera toujours en retard par rapport à la technique. Mais ça, c'est un autre débat.
Yeah. The last question.
Oui. Yeah. Juste une autre question. Ce ne sera pas sur la vaccination. Je voulais savoir sur la traçabilité de vos infirmiers qui utilisent donc ces systèmes, comment vous avez réglé ce problème, et deuxièmement, si vous revalidez biologiquement derrière quand ça remonte dans votre système de gestion de labo.
J'aborde juste la traçabilité et puis Sylvie fera le reste. En fait, on est tout informatisé aux urgences, donc il y a une traçabilité complète au niveau du dossier informatique du patient. Et après, on a tous, bien sûr, nos badges avec code barre pour pouvoir se loguer sur la machine et faire le test. Après, je laisse parler Sylvie pour le reste.
Ouais, donc là, c'était juste un test de 15 jours cette année, mais ce qui est prévu, effectivement, vu que les machines reconnaissent les codes barres sur les cartes professionnelles, c'est d'habiliter les gens et que ne puissent passer sur la machine que ceux qui ont reçu une habilitation, et donc dont le code barre sera reconnu sur la machine. Après, par rapport à la validation, c'est pareil, là on était sur un test de 15 jours, donc on n'a pas fait de validation médicale derrière, mais pour moi, je suis contente d'assister, c'est aussi la première fois que j'assiste à un congrès de biologie d'urgence, étant plutôt orientée à infectiologie, et voilà. Et demain justement il y a des conférences sur l'accréditation, et ça m'intéresse beaucoup parce que justement va se poser cette question-là, et notamment de la validation médicale derrière. Et je pense que de toute façon, ce qui est important pour les cliniciens, c'est d'avoir le résultat en urgence, et si nous on valide le lendemain matin et que ça nous permet quand même de vérifier quotidiennement en fait ce qui a été fait sur la nuit, sur les week-ends, je pense qu'on doit quand même pouvoir être dans un système qui fonctionne correctement.
Et je rebondis. D'abord, je vous remercie pour cette très belle présentation. Et dès qu'il y a un tandem clinico-biologique, bah moi aussi, je suis comme ça, je suis content. Donc, continuez, mais évitez de faire un gros laboratoire des urgences, parce qu'on sait ce que c'est, ce que ça coûte. Et j'ai vu votre petite dernière phrase comme un danger. Mais on voit bien, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on a eu de la bactério, de l'hémato, de la viro. Et donc, voilà, c'est la ligne de front, elle est en train de bouger avec toutes les disciplines biologiques. Et par voie de conséquence, c'est aussi ça soutient notre démarche d'organiser ce congrès tous les 3 ans. Parce qu'en 3 ans, on voit bien l'évolution. Le congrès, il aurait lieu tous les ans, mais on ne verrait pas grand-chose, je pense. Et donc, c'est particulièrement spectaculaire. Et voilà, c'est très, très belle, c'est une très belle ouverture. Mais donc, du coup, sans transition, on va revenir à du classique sûr, nos bons vieux gaz du sang.